9h, 10h, c'est arrivé cette semaine.
Patrick Cohen sur Europe 1.
Bonjour à tous. Ce qui est arrivé cette semaine, c'est un simple microbe dont la prolifération planétaire suscite une mobilisation sans précédent.
Cette épidémie qui affecte tous les continents et frappe tous les pays européens est la plus grave crise sanitaire qu'ait connue la France depuis un siècle.
Un virus qui mène le monde et l'immobilise, répand la peur, la maladie et la mort sur les 5 continents. Comment expliquer une telle flambée épidémique? Peut-on anticiper son évolution? Pourquoi, plus d'un siècle après Pasteur, sommes-nous encore si vulnérables à certaines maladies infectieuses? Le microbe est-il plus fort ou plus rapide que l'homme? Quand pourrons-nous espérer un remède? Avec nous dans un instant, deux grands médecins qui ont consacré leur vie à l'étude des bactéries, des virus, des vaccins, des maladies émergentes et des épidémies, les professeurs Philippe Sansonetti et Patrick Berche. Après les Césars et la polémique Polanski, la controverse des avocates. Les premières dénoncent le tribunal de l'opinion publique, rappellent les principes de la présomption d'innocence et de la prescription, parce qu'aucune accusation n'est jamais la preuve de rien. Les secondes leur répondent, mais comment fait-on quand la justice pénale est en échec? Deux tribunes parues cette semaine, deux de leurs signataires pour en débattre ce matin, Claire Doublier et Caroline Mécari.
Europe 1, c'est arrivé cette semaine.
Mais qu'est-ce qui nous arrive? Qui aurait cru qu'après avoir vaincu la peste, la variole et la poliomyélite, fait reculer la rougeole et la tuberculose, un nouveau virus viendrait réveiller des peurs ancestrales et provoquer une crise mondiale inédite? Eh bien, peut-être les deux scientifiques qui sont face à moi. Bonjour Patrick Berche.
Bonjour.
Microbiologiste, vous avez été doyen de la faculté de médecine Paris-Descartes, directeur de l'Institut Pasteur de Lille, et vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages sur l'histoire de la médecine et des bactéries, des microbes, de la grippe, des pandémies. À vos côtés, un autre médecin. Bonjour Philippe Sansonetti.
Bonjour.
Professeur au Collège de France, professeur émérite à l'Institut Pasteur. Vous avez passé plus de 30 ans, spécialiste des maladies émergentes. L'une de vos dernières leçons au Collège de France, il y a deux mois, était intitulée justement « Microbes sans frontières ». Nous y sommes. Est-ce que vous pensiez qu'un nouveau virus pourrait provoquer de tels effets aux quatre coins du monde? Est-ce que vous saviez que ça arriverait un jour ou l'autre?
Si vous me demandez si je le pensais, ma réponse honnête, c'est oui. La question était quand, et on y est. On a eu quand même des alertes, vous le savez, depuis la grippe espagnole. On a eu d'autres épisodes de grippe pandémique. On a déjà eu deux épisodes de coronavirus en 2003, le SARS et en péninsule arabique en 2012,
le MERS.
Donc c'est le troisième épisode. Donc on sait qu'on est rentré avec le monde moderne, avec la mondialisation, avec les transports, avec les changements écologiques, dans un monde d'émergence infectieuse. Et c'était prédit par Charles Nicolle dès les années 20 et ça se confirme aujourd'hui.
Charles Nicolle qui disait qu'il y aurait toujours des maladies infectieuses.
C'est un fait fatal.
C'est un fait fatal. Qu'est-ce qui le rend, ce virus, différent et plus dangereux que les autres grippes? Sa contagiosité, sa mortalité, son temps d'incubation?
Je dirais que c'est les deux. Il y a dans ces virus émergents, au fond, un phénomène de base qui est ce qu'on appelle le saut d'espèce. C'est-à-dire quand ce virus passe d'un environnement animal à l'environnement humain et cette rencontre nouvelle, au fond, elle peut se solder par deux situations extrêmes. L'une est que rien ne se passe. Et le fitness, l'adaptation de ce virus à l'homme n'existe pas et heureusement tout s'arrête, tout avorte. Et puis d'autres, soit parce qu'ils sont beaucoup plus proches de la capacité de se développer chez l'homme, soit parce qu'ils évoluent, parce que leur génome peut évoluer et s'adapter, vont donner lieu à une maladie. Alors cette maladie, elle peut être bénigne. Mais elle peut être aussi gravissime comme dans le cas de la grippe aviaire, par exemple. Et entre les deux se situent des différences de gravité et des différences de transmissibilité. Ouais. Le SARS de 2003 était relativement peu transmissible, heureusement. Celui-ci est moins virulent, c'est une évidence, mais beaucoup plus transmissible.
Mais ça tient à quoi? C'est la grande loterie de la nature? Parce que les sauts d'espèces, là, c'est ce qu'on appelle les zoonoses. Hein, oui. Donc ça vient de la faune animale sauvage, mais c'était le cas de la rage
sida.
Oui.
Oui, c'est un principe général, on n'a rien inventé.
Mais sur la virulence et
l'effet produit, c'est un petit peu effectivement la loterie, c'est un aspect purement moléculaire, c'est-à-dire c'est vraiment le degré d'adaptation. Il y a d'ailleurs un certain équilibre entre la transmissibilité et la virulence extrême, dans la mesure où au fond, en termes d'évolution, un micro-organisme qui serait mortel, c'est pas bon pour son évolution puisqu'il va tuer son réservoir. Donc il y a une espèce de trade-off, comme on dit en anglais, qui nous donnent des profils qui peuvent varier dans une certaine mesure, mais qui sont ce qu'on voit aujourd'hui.
Patrick Bierche, comment le regardez-vous, ce virus, et qu'est-ce qui fait sa singularité ?
Alors, ce virus, sa singularité, d'abord, c'est qu'il était inconnu jusqu'ici. C'est un virus inconnu qui provient probablement des chauves-souris et qui est en train de se propager. Alors, il est quand même un peu inquiétant dans le sens qu'il a une mortalité qui est de l'ordre de 1% global, 1 à 2%, ce qui est énorme si on pense que la grippe espagnole qui a fait 50 millions de morts avait une mortalité de 2%, 2 à 4% à peu près. La singularité aussi, c'est son évolution extrêmement rapide, sa contagiosité. Il diffuse à une vitesse extraordinaire. Et actuellement, les deux préoccupations majeures, c'est d'une part ce qui se passe en Italie et ce qui se passe en Iran, avec des taux de mortalité qui atteignent 7%.
Ouais.
Alors, on peut se poser la question d'une évolution du virus lui-même qui, au fur et à mesure de la contagiosité, du passage interhumain, peut éventuellement évoluer, devenir plus contagieux ou plus virulent.
C'est pour ça que les taux de mortalité sont différents selon les zones géographiques et les pays, parce qu'on a des taux qui sont très différents d'un endroit à l'autre.
C'est doit être interprété en gardant à l'esprit que les seuls chiffres valables, c'est le nombre de morts et le nombre de personnes en réanimation, car le numérateur, c'est-à-dire le nombre d'infectés, dépend
de
la capacité de faire des tests, du dépistage. Mais quand même, on a des disparités extrêmement importantes entre certains pays. Et ça, il y a des pays où il y a très, très peu de mortalité. C'est quand même un sujet de préoccupation.
Qu'est-ce qui provoque les atteintes graves ou la mort ? C'est un virus qui s'attaque aux poumons, aux tissus pulmonaires et entraîne des insuffisances respiratoires ?
Moi, quand on regarde les coronavirus en général, parce que celui qu'on voit là, c'est un membre parmi d'autres des virus corona, alpha et bêta, comme on les appelle, qui infectent les mammifères et l'homme. On voit qu'il y a plusieurs organes qui peuvent être touchés, mais c'est vrai que le poumon est quand même là la cible principale de ces virus. On l'a vu avec les deux autres, le SARS de 2003, dont les deux virus sont très très proches, et le MERS corona. La raison de ce tropisme pour le poumon est d'abord parce que la transmission est par les voies aériennes, enfin c'est un peu un cercle vicieux à partir de ce moment-là, c'est aussi parce que le récepteur du coronavirus, qui est maintenant identifié, d'ailleurs c'est le même que celui du SARS de 2003, est un récepteur qui est très présent dans le poumon.
C'est quoi le récepteur ?
Le récepteur, c'est ce qu'on appelle l'enzyme de conversion de l'angiotensine 2, qu'on appelle une protéase, je suis désolé, c'est une enzyme qui clive l'angiotensine, qui la mature, et cette protéase le récepteur de l'angiotensine 2 est celle qui détruit l'angiotensine. Voilà, donc c'est curieux qu'un virus aille au fond s'insérer chez nous à partir de récepteurs, de molécules qui sont des molécules qui régulent la fonction cardiaque, la fonction respiratoire et éventuellement les fonctions rénales et digestives.
Mais ça, c'est identifié et c'est important de l'avoir fait. On va en reparler dans un instant. Patrick Bierche, Philippe Sansonetti, vous restez avec nous.
Europe 1. Merci d'avoir choisi Europe 1. C'est arrivé cette semaine, c'est jusqu'à 10h avec vous, Patrick Cohen.
Avec deux professeurs de médecine, Patrick Bierche et Philippe Sansonetti. Et une question encore sur les atteintes médicales provoquées par le virus. Est-ce qu'on sait pourquoi les enfants sont épargnés ou en tout cas beaucoup moins gravement touchés ?
Alors, on ne le sait pas. C'est probablement une question de récepteur. Les enfants sont infectés et propagent le virus. Mais il n'y a pas de cas répertorié d'enfants morts par ce virus jusqu'ici, sur les milliers de personnes qui sont déjà mortes. Donc, on pense qu'il y a peut-être un problème de récepteur. Et c'est une bonne nouvelle quand même que les enfants ne soient pas...
C'est peut-être parce que leur système immunitaire répond mieux que celui des adultes.
C'est possible, mais ça reste une supposition.
Ils sont souvent donc porteurs, asymptomatiques comme on dit, c'est-à-dire sans aucun symptôme.
Ou faiblement symptomatiques, je dirais plutôt.
Donc la fermeture des écoles, ça sert à quoi ? À éviter qu'ils ne contaminent des adultes ?
C'est une mesure déterminante, la fermeture des écoles, pour diminuer la propagation du virus, puisque les enfants, bien entendu, se communiquent très facilement le virus et les communiquent à leurs parents, à leurs grands-parents. Il faut surtout protéger les personnes âgées de ce virus qui sont la cible essentielle et qui correspondent à la mortalité la plus importante.
Cette question aussi, Patrick Bierche, pour vous, qui avez écrit là-dessus, est-ce qu'il y a des précédents épidémiques comparables?
Alors, on est, les pandémies de grippe sont relativement comparables à ce qui se passe actuellement. Il y a la grande pandémie de 1918 qui a quand même fait entre environ 50 millions de morts. On dit 50 à 100 millions de morts.
Oui, c'est-à-dire plus que les victimes de militaires de la Première Guerre. Bien
oui,
plus.
La Première Guerre a tué 8 millions de personnes à peu près, et la grippe espagnole a tué beaucoup plus, puisque c'était surtout aussi l'Europe, certainement, mais aussi la Chine et l'Inde, où il y a eu des dizaines de millions de morts.
Mais à une époque où le virus n'était pas isolé, on n'avait pas l'arsenal thérapeutique d'aujourd'hui.
On n'avait aucun arsenal thérapeutique, en particulier pas d'antibiotiques, et rien n'a pu stopper ce virus qui a fini par disparaître après plusieurs vagues meurtrières.
Philippe Sansonetti.
Une certaine différence entre la grippe et la maladie qu'on voit actuellement, c'est que la grippe tuait, quand elle tue, à cette époque, en 1918, et c'est encore le cas souvent, en particulier chez les personnes âgées, par une surinfection pulmonaire par des bactéries, en particulier par le pneumocoque. Donc ça a très vite ouvert un angle thérapeutique par le traitement antibiotique. Là, ce qui est un petit peu plus ennuyeux avec ces virus émergents qui touchent le poumon, c'est qu'ils ont l'air d'avoir une capacité de destruction, je dirais personnelle, ne nécessitant pas de surinfection microbienne, même s'il y a quelques cas démontrés avec ce nouveau corona. Mais il y a des différences avec la grippe, mais c'est vrai que la carte se recouvre très très bien.
Juste Patrick une Berge. Particularité extraordinaire de la grippe espagnole, c'est qu'elle tuait des personnes entre 20 et 40 ans,
bien sûr.
Des jeunes. Et ça, c'est probablement lié aux conditions épidémiologiques de la guerre de 14, où il y avait des transferts de troupes massifs, des gens qui étaient stationnés dans des camps, dont des rassemblements constants, avec des transferts par bateau vers l'Europe de près de 2 millions de soldats américains. Et cette grippe qui est née cette fois-là aux États-Unis, c'est assez rare qu'une grippe ne naisse pas en Chine.
Contrairement à son nom.
Elle a été transmise à toute l'Europe, puis au monde entier, avec une rapidité incroyable, alors qu'il n'y avait pas d'avion à l'époque.
Guillaume Apollinaire, Egon Schiele,
Edmond Rostand
ont été fauchés par la grippe espagnole, entre autres personnalités. J'ai tout de même été étonné, en préparant cette émission, de découvrir les ravages de la grippe asiatique de 1957, 2 millions de morts, et de la grippe de Hong Kong, qui est née en 68, qui a gagné l'Europe pendant l'hiver 69-70, bilan 1 million de morts dans le monde, 40 000 en France, 40 000 tout de même, mais c'est un décompte qui a été fait a posteriori, il n'y avait pas de bilan quotidien, et pas grand-chose dans la presse de l'époque. Je suis allé voir, médiatiquement ça n'a rien à voir, mais d'un point de vue médical, clinique, c'est comparable ou pas, Patrick Berge?
Alors oui, c'est assez comparable. Mais alors, la grippe asiatique, c'est intéressant parce que là, il y a un précédent d'un système de santé qui s'effondre. Pendant 8-10 jours, il n'y avait plus d'hôpitaux, plus de possibilités d'hospitalisation parce que les soignants étaient malades. Donc ça, il faut retenir cet épisode historique pour nous. Et il faut absolument préserver le système de santé, prendre des précautions pour qu'on n'arrive pas à un moment où l'on ne puisse plus hospitaliser les gens parce qu'il n'y a plus de soignants.
Professeur Patrick Berge, professeur Philippe Sansonetti, on parle des antidotes de la course au remède dans un instant.
Europe 1. Excellent week-end le samedi de 9h à 10h. Vous écoutez Cette arrivée cette semaine avec Patrick Cohen.
Avec deux grands spécialistes des pandémies et des maladies émergentes, Philippe Sansonetti et Patrick Berge. Question un peu naïve ou prosaïque. Qu'est-ce qui fait que nous avons gagner la bataille contre de nombreuses et terribles maladies infectieuses, notamment par la vaccination, Philippe Sansonetti, que nous paraissions si démunis face à celle-ci?
On paraît démunis, je ne pense pas qu'on soit démunis, simplement on est pris à chaque fois qu'une nouvelle émergence survient par le fait que le micro-organisme, par définition, est inconnu. Donc ça pose une question d'abord sur sa transmissibilité, c'est pour ça qu'on est obligé de prendre des mesures de quarantaine extrêmement strictes. Alors après, les pays les déclinent un petit peu à leur manière, mais on voit l'exemple chinois et son efficacité. Les thérapeutiques ne sont pas encore disponibles, à moins de pouvoir repositionner des molécules antivirales déjà existantes. C'est ce qui se fait en ce moment.
C'est-à-dire
de façon très très active. On les reteste très vite parce que les médicaments peuvent servir à améliorer la situation clinique individuelle, mais aussi à diminuer la charge de virus qui circule et donc à casser la chaîne épidémique. Et puis le vaccin, bien entendu, il est spécifique de chacun de ces micro-organismes et on ne peut pas trouver, mettre en place, tester régulièrement réguler un vaccin en quelques jours ou en quelques semaines. Donc à chaque fois, et c'est compréhensible, on se retrouve dans une situation nouvelle. Il faut trouver des nouveaux paradigmes, il faut accélérer les procédures, mais néanmoins, pour l'instant, on peut surtout compter sur l'isolement avant tout, et c'est pour ça qu'il faut qu'il soit extrêmement strict.
Patrick Berche.
Je pense que c'est un virus nouveau, donc on a tout à inventer. C'est un virus dont on ne connaît pas exactement le comportement encore. Il y a le problème des porteurs sains, le problème des mutations éventuelles, de l'évolution de la virulence. Alors les médicaments, on va tester des molécules antivirales. Il existe aussi quelques molécules qui marchent sur le SRAS. Et donc c'est un virus qui est à 70% cousin, si je peux dire, avec le SRAS. Donc on a quelques molécules. Et pour le vaccin, eh bien, je sais qu'à l'Institut Pasteur, il y a un travail qui se fait sur le vaccin de la rougeole en mettant une protéine du virus dans ce vaccin, dans ce virus de la rougeole. On pourrait peut-être avoir un vaccin efficace, mais il faudra au moins un an ou deux avant d'avoir un vaccin efficace. Et le gros problème aussi, c'est la résurgence. Est-ce que ce virus va réapparaître dans le temps ?
Mais s'il réapparaît, on sera équipé cette fois.
On sera beaucoup mieux équipé.
On aura éventuellement le vaccin, en tout cas l'arsenal thérapeutique, pour pouvoir le combattre. On est condamné, disions-nous tout à l'heure, à subir des maladies émergentes. Je crois que dans les dernières décennies, depuis la Seconde Guerre mondiale, on en a détecté plus de 300.
Ouais.
Donc, ça va continuer.
Ça va continuer.
Et Philippe Tonson a dit, et le microbe sera toujours plus rapide que l'homme.
Le microbe sera toujours plus rapide que l'homme, mais notez quand même que l'homme est de plus en plus rapide. C'est peut-être bizarre de le dire aujourd'hui. Notez quand même qu'il a fallu plusieurs mois, voire années, pour identifier le virus du sida dans les années 80.
Ouais,
il a fallu cultiver le virus. Notez aujourd'hui que lors de l'apparition de l'épidémie en Chine, il a fallu quelques jours pour identifier ce virus et pour mettre en place les tests de diagnostic. On est à une autre échelle ici et c'est entre-temps ce qui s'est passé, c'est les progrès de la biologie moléculaire, c'est le séquençage des génomes de nouvelle génération, c'est la bioinformatique. On peut détecter un virus émergent, je dirais presque sans qu'il caricaturer, en quelques heures. Ce qui n'était pas le cas encore il y a 30 ans.
Est-ce qu'on peut anticiper l'évolution, le devenir des épidémies au point où nous en sommes? On en est chacun, vous le voyez tous les jours, toutes les heures, même à la télévision, en train de prolonger des courbes. Est-ce que ça a un sens, Patrick Berche, ces courbes de progression de l'épidémie qui sont prolongées avec un trait de crayon?
Ça, je pense que ça a un sens parce que ça permet éventuellement de prédire l'avenir et de voir l'efficacité des mesures qu'on prend pour freiner le nombre de cas. Hier, il y a eu 800 cas de plus en France. Bon, on a une cinétique qui est exactement la même que celle de l'Italie actuellement, mais prédire les virus qui vont arriver, c'est beaucoup plus difficile parce qu'ils arrivent à partir d'un réservoir sauvage, chauves-souris, oiseaux, etc. Pour la grippe, c'est plutôt les oiseaux. Donc, c'est extrêmement difficile de prédire. Probablement, beaucoup de virus apparaissent et n'ont aucun avenir épidémiologique, c'est-à-dire qu'ils s'arrêtent à l'échelon de quelques cas, et après ça s'arrête. Ils perdent leur virulence, par exemple, ou ils n'ont pas d'avenir épidémiologique.
Ce qui compte, Philippe Sansonetti, c'est ce qu'on appelle le taux de reproduction, c'est-à-dire le R0, le nombre de personnes à qui la capacité
d'un individu
infecté à transmettre.
Donc si le R0 est supérieur à 1, ça veut dire qu'il transmet à plus d'une personne, donc on est dans une situation épidémique. Ouais. Donc c'est un marqueur très très important, c'est ce que les modélisateurs, en fait, il y a une science qui a fait un progrès phénoménal ces dernières années, c'est la modélisation de la dynamique précoce des épidémies. Au début, les gens n'y croyaient pas trop, c'est l'introduction des mathématiques en particulier dans cette science qui a fait considérablement changer les choses. Nos collègues anglais en particulier ont été moteurs dans ce domaine.
Ce qui conduit les politiques publiques aujourd'hui.
Les politiques de plus en plus s'appuient, ce que le président Macron a dit d'ailleurs plusieurs fois, je m'appuie sur des faits scientifiques. Et les faits scientifiques, dans l'état actuel des choses, en dehors des aspects strictement médicaux, c'est la modélisation de la dynamique des épidémies et la possibilité d'anticiper les actions de santé publique par rapport à cette dynamique.
Donc la limitation des contacts humains pour faire descendre ce R0 à 1 ou en dessous de 1, c'est-à-dire un seul contact.
Qui tient sur, encore une fois, l'isolement et puis l'hygiène individuelle. Pour l'instant, malheureusement, on n'a pas grand-chose de plus brillant à proposer.
Patrick Berche.
Ouais. C'est uniquement les barrières physiques actuellement qui peuvent, ce qu'on appelle l'évitement, les barrières physiques qui peuvent diminuer la propagation. Lavage des mains, toutes les mesures qui sont actuellement préconisées, on n'a rien trouvé de mieux. Et donc on risque quand même, si l'épidémie continue à ce rythme en France, d'avoir des mesures beaucoup plus drastiques d'isolement des gens.
C'est-à-dire de limitation de circulation.
Limitation de circulation.
Comme en Italie.
Oui. Probablement, on va arriver à un modèle italien, si je puis dire, beaucoup plus drastique.
L'Italie est l'image de la France avec une semaine à 15 jours d'avance.
Vous en êtes convaincus tous les deux ?
Je pense qu'il vaut mieux de toute façon en être convaincu si on veut être efficace.
Bon, eh bien, ça ne s'annonce pas très bien, et notamment pour une échéance politique aussi, qui est le deuxième tour des municipales dans 10 jours, dont on se demande dans quelles conditions il pourrait avoir lieu, mais donc à brève échéance. Encore une fois, on est à quoi, une semaine d'écart, vous dites, tous les deux ?
Une grosse semaine.
De l'Italie. Merci Patrick Berche, auteur entre autres d'une histoire des pandémies, faut-il avoir peur de la grippe ? C'est paru en 2012 chez Odile Jacob. Merci Philippe Sansonetti, auteur il y a 3 ans de Vaccins, pourquoi ils sont indispensables, également chez Odile Jacob. Plaidoyer toujours d'actualité, d'ailleurs on n'entend plus beaucoup les anti-vaccins ces temps-ci, vous avez remarqué, Philippe Sansonetti ?
Oui, comme vous, je l'ai remarqué. Bon, voilà, ça en dit long sur l'inanité de ces attitudes anti-vaccinales, pour ce qui me concerne, en tout cas.
Et pas seulement vous.
Oui, c'est bien.
Merci à vous, merci pour ce dialogue. Dans un instant, Polanski et César, la lutte contre les violences sexuelles et la présomption d'innocence, deux avocates en débat, Caroline Mécari et Claire Doublier.
Europe 1. Merci de nous rejoindre, c'est Europe 1, 9h-10h tous les samedis. Vous êtes avec Patrick Cohen. Bienvenue dans cette arrivée cette semaine.
La soirée des Césars du cinéma français restera sûrement dans nos mémoires, soit comme l'irruption salutaire du combat des femmes contre les violences sexuelles, soit comme le spectacle d'une sinistre chasse à l'homme, cet homme étant le cinéaste Roman Polanski. Des raisons, surenchère oratoire, aucune accusation n'est jamais la preuve de rien, ont commenté dans une tribune une centaine d'avocates pénalistes. D'accord pour la présomption d'innocence, leur ont répondu un collectif de femmes juristes. Mais comment fait-on quand le système pénal est en échec ? Bonjour Caroline Mécari.
Bonjour.
Avocate engagée pour les droits des femmes et des personnes LGBT, vous avez signé la deuxième tribune. Bonjour Claire Doublier.
Bonjour.
Avocate pénaliste, féministe ?
Absolument.
Pourquoi ce rappel de principe dans cette première tribune, présomption d'innocence et prescription ?
C'est un rappel de principe parce que on vit dans une société, qu'on a besoin de réalités communes et que pour que le système fonctionne au mieux des intérêts de tout le monde, ces principes sont absolument déterminants et fondateurs. Ce qui ne signifie pas qu'ils sont exclusifs de la libéralisation de la parole. Simplement, il ne faut pas oublier que pour que la justice puisse exister, il faut qu'il y ait un respect des principes et un respect des règles de preuve. Et ce qui est un peu difficile dans le cadre du débat aujourd'hui, c'est qu'on est sur un sujet qui est tellement brûlant que dès qu'on prend la parole, il y a une totale stigmatisation de ce qu'on dit et de ce qu'on pense. Et à titre d'illustration, j'ai découvert en ouvrant Libération jeudi matin, que parce qu'on était signataire d'une tribune où on venait rappeler des principes d'État moderne, nous étions misogynes. Et j'avoue que c'est un peu difficile, dans ces conditions, de pouvoir s'exprimer tranquillement, sereinement, et de faire avancer les choses. Ce d'autant, et là je vais être un peu égotique, que lorsque, au début des années 2000, j'assurais la défense d'actrices qui étaient bien seules pour venir expliquer que M. Brissot avait été l'auteur d'agissements coupables sur elle, ce même journal Libération m'expliquait que mes actrices étaient complètement à côté de la plaque, n'avaient rien compris de ce qu'était l'art, et quant à moi, j'étais une féministe au front plat.
Jean-Claude Brissot, cinéaste condamné pour violence sexuelle et qui est mort il y a quelques mois et dont le visage n'est pas apparu, a été occulté de la rétrospective des disparus de l'année lors de la soirée des Césars du cinéma, je le dis au passage. Caroline Mécari.
Écoutez, on peut comprendre bien sûr la défense des grands principes de droit que sont la présomption d'innocence ou le droit à la, enfin, à la prescription, c'est-à-dire le droit à l'oubli. La difficulté de cette tribune, c'est qu'elle intervient comme si le champ pénal devait régir absolument tous les débats publics. C'est ça la difficulté, parce que les principes dont il s'agit s'appliquent devant l'institution judiciaire. Il n'y a pas de doute là-dessus.
Et pas dans le débat public ?
Mais non, dans le débat public, on n'est pas, le débat public n'est pas une institution judiciaire. Et d'ailleurs, quand vous avez rappelé le départ de Madame Hennel des Césars, ce n'est pas pour, comment dire, son départ est lié à ce qu'elle a ressenti comme étant un crachat face à ce qu'elle a, la position qui est la sienne. C'est-à-dire, comment une institution comme les Césars en vient à récompenser un homme dont on sait qu'il a été condamné pour des violences. C'est comme si c'est comme si la parole des femmes victimes de violences était d'une certaine manière n'existait pas. C'est comme si les Césars avaient omis ou étaient hors du sol, hors de la société dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Est-ce qu'il viendrait à l'esprit, par exemple, au jury des Goncourt, de donner le Goncourt à Céline aujourd'hui, compte tenu de son antisémitisme? Je ne le crois pas. En fait, il y a quelque chose de cet ordre-là qui a émergé.
Si je peux me permettre, oui. L'antisémitisme de Céline était dans ses écrits. Les comportements privés de Roman Polanski ne sont pas dans ses films.
Mais peu importe. Là, vous mettez la question, le doigt sur le débat. Peut-on séparer l'homme de son œuvre? Comme le dit très bien Virginie Despentes, est-ce que je dois laisser la femme qui a été violée à la porte de mon bureau lorsque j'écris un livre? Non. Il y a quelque chose qu'on ne peut pas faire de distinction de cette manière-là. Et donc, cette tribune a été ressentie. Et c'est la raison pour laquelle, moi, j'ai signé une tribune qui vient expliquer justement que le principe de la présomption d'innocence ou le droit à la prescription, ils sont des principes qui s'exercent dans le champ de l'institution judiciaire. Mais au nom de ces principes, on ne peut pas empêcher le débat public. Que je sache, Madame Hennel n'a pas dit qu'on ne devait pas aller voir le film de M. Polanski. Elle ne dit pas cela. Elle dit simplement, vous César, quand vous remettez ce prix, au fond vous faites injure aux femmes qui sont victimes et qui dénoncent non pas le fait d'être victime à titre individuel, mais comment structurellement on est dans une société qui ne lutte pas efficacement contre les violences faites aux femmes et contre les violences intrafamiliales d'une manière générale.
Claire Doublier.
Oui, en fait, je pense qu'il faut expliquer un peu cette tribune. Cette tribune, elle n'est pas en rapport avec la vie et l'œuvre de Polanski.
Il en est question
oui,
tout de même.
Il est question, et
vous rappelez d'ailleurs dans cette tribune les paroles de la seule victime avérée de Roman Polanski, qui a fait l'objet d'une condamnation, Samantha Guéner, qui a fait l'objet d'une condamnation à Los Angeles aux États-Unis en 77.
Mais le débat, il est ailleurs. Le débat, il est simplement dans le fait qu'aujourd'hui, on assiste à deux justices qui sont concurrentes. On a une justice judiciaire qui, jusqu'à aujourd'hui, avait le monopole de dire qui était coupable et de sanctionner. En contrepartie de ce monopole, on offrait des garanties à toutes et à tous. Et l'émergence aujourd'hui d'une justice qui est une justice via des réseaux sociaux où une parole en elle-même résume une mise en cause, une accusation, une dénonciation, un jugement et une condamnation sociale.
Ce que vous appelez le tribunal de l'opinion.
Mais en fait, et c'est là-dessus que on doit tous réfléchir. Et quand ma consœur vous dit que la présomption d'innocence n'a pas à avoir une réalité dans le cadre du débat social, moi je comprends parfaitement que pour des raisons historiques, des femmes viennent aujourd'hui dire leur vérité. Mais il n'en demeure pas moins qu'on n'a pas à mettre sous le tapis les conséquences que cette liberté d'expression et le relais qui en est fait par les réseaux sociaux peuvent avoir sur le débat général. Et je pense notamment à la situation aujourd'hui de Woody Allen, par exemple. Moi, je déplore qu'aujourd'hui, Woody Allen ne puisse pas voir son livre édité.
Claire Doublier, Caroline Mécari, vous répondez dans une minute après une pause.
Europe 1. Le samedi matin, Patrick Cohen vous accompagne jusqu'à 10h. Vous écoutez Cette arrivée cette semaine sur Europe 1.
avec Claire Doublier et Caroline Mécari, deux avocates en désaccord, non pas sur le combat contre les violences sexuelles, mais sur la façon dont le débat public s'en est emparé. Caroline Mécari, le tribunal de l'opinion qui prend le pas sur la justice, ce que vous dit Claire Doublier, et qui en vient qui conduit à la censure de Woody Allen.
Alors d'abord, mon désaccord est que je crois qu'il n'y a pas, enfin il n'y a pas de justice de l'opinion. C'est-à-dire on est lorsqu'on est dans le débat public et dans les opinions qui se forgent au travers de l'intervention des uns et des autres, on n'est pas dans de la justice. Parce que la justice répond justement à des règles très précises, d'un débat contradictoire, d'une charge de la preuve, de prescription, de qualification pénale.
Ça, je pense interlocutrice doit être d'accord avec
on
ça.
On entend très bien, mais on ne peut pas, au nom de ces principes, dire que dans le débat public, il n'est pas possible de s'exprimer. C'est-à-dire que pourquoi est-ce qu'aujourd'hui il y a une parole des femmes qui passe au travers des réseaux sociaux et qui, contrairement à ce que dit la Tribune, n'est pas dans la surenchère, hein, mais est simplement une voie de passage d'une parole qui, justement, ne passe pas par l'institution judiciaire, parce que l'institution judiciaire, aujourd'hui, n'est pas en mesure de recevoir cette parole. Quand Mme Hennel dit que elle ne peut pas, d'un point de vue presque systémique, l'institution judiciaire est très défaillante pour recevoir la parole des femmes victimes de violences sexuelles et autres, c'est une réalité. C'est ça qui doit nous choquer. C'est qu'elle dénonce une situation que Claire connaît bien par ailleurs, qui est réelle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, lorsque vous êtes victime de violences, vous allez avoir affaire à un commissariat ou une gendarmerie, que vous n'allez pas forcément être bien reçu, qu'ensuite, on va quasiment systématiquement mettre en doute les faits que vous relatez, qu'ensuite vous risquez d'être deux fois plus, votre plainte risque deux fois plus d'être classée que pour une autre infraction, etc., etc. C'est pour ça qu'il y a ces canaux qui s'ouvrent et qui permettent justement aujourd'hui d'avoir le débat que nous avons, c'est-à-dire comment faire en sorte qu'il y ait une politique judiciaire qui permette de lutter contre ces violences qui ne sont pas des violences individuelles mais qui sont des violences systémiques. C'est vraiment des décennies voire des siècles, j'allais dire, de patriarcat qui nous amènent à cela. Et aujourd'hui, le couvercle, il saute.
Mais vous êtes sur le terrain des principes ou du fonctionnement de la justice.
Les deux vont
Et Claire Doublier vous parle aussi de phénomène de meute ou de chasse à l'homme
J'ai pas vu Madame Hennel être dans la meute ou dans la chasse à l'homme. Et quand ensuite vous avez, c'est une maison d'édition qui décide de ne pas publier, republier Woody Allen
sous la pression de l'opinion et d'une partie de ses employés.
Et la question est de savoir si on doit céder à cette pression-là ou pas. En réalité, il faut être
Claire Doublier.
En ce qui concerne la capacité de l'institution judiciaire à recevoir la parole des femmes qui sont victimes de violences, je pense qu'il y a un problème, mais qui est un problème de moyens humains et de moyens financiers.
Ah bon,
il est général à la situation judiciaire aujourd'hui. En d'autres termes, malheureusement, les femmes n'ont pas le monopole d'un manque de moyens. Et ce qui me paraît évident, c'est que dès l'instant où on a passé le prisme de la gendarmerie et des services de police où on a effectivement un problème de moyens, la parole des femmes dans une enceinte judiciaire, elle est parfaitement entendue. Et je peux vous dire qu'arriver dans une salle d'audience, quand on défend quelqu'un qui a commis ou qui est supposé avoir commis des faits à l'endroit d'une femme, c'est aujourd'hui extrêmement difficile parce que, contrairement à ce qui est indiqué, la formation des magistrats aujourd'hui, c'est de prendre extrêmement au sérieux la parole des femmes. Et la question qui peut se poser d'une façon générale, c'est la question de la preuve de cette parole. Mais est-ce qu'il faut mettre en place un système dérogatoire ? Là-dessus, la position qu'on doit avoir, qui est la seule raisonnable, parce que c'est la seule qui permet d'avoir une vie commune, c'est que les principes doivent être respectés. Et lorsqu'on vient nous dire qu'on refuse la liberté d'expression, ce n'est pas du tout le débat. Notre problème, ce n'est pas la liberté d'expression. C'est l'exploitation qui peut en être faite après. Et c'est surtout la question de la généralisation de ce mode de fonctionnement qui fait qu'on échappe au débat, notamment sur les preuves.
Ah non, alors devant l'institution judiciaire, on n'échappe absolument pas. au débat sur la valeur des preuves.
Évidemment, devant, mais sur le terrain public, on ne fait que ça.
Devant l'institution judiciaire, la parole des femmes, ou la parole d'ailleurs de n'importe quelle personne mise en cause ou mise en examen, n'est pas sacralisée. Ça, c'est quelque chose qui n'existe pas en réalité. Il y a vraiment un débat contradictoire. C'est ça qui est intéressant. Ensuite, la question de savoir comment ce débat est repris publiquement dans le débat d'intérêt général, et la question des violences faites aux femmes est une question d'intérêt général, mais qui ne justifie pas tout. Vous savez tout aussi bien que moi que des femmes ont pu être condamnées soit parce qu'elles avaient diffamé tel homme mis en cause. Vous avez l'affaire de Sandra Müller qui a lancé le hashtag balance ton porc et qui a été condamnée pour diffamation à l'égard de celui qu'elle avait dénoncé.
Elle a traité de harceleur quelqu'un qui n'avait mais pas commis de harcèlement.
Elle a été condamnée pour diffamation, oui. Ce qui permet de rétablir, les choses. De
entre
la même
temps,
manière
quelques
que,
dommages collatéraux
que, dans la, que, dans la, que dans l'affaire de la plainte contre, enfin, qui a été initiée par M. Jox contre celle qu'il avait dénoncée, elle a été elle aussi condamnée. Donc il y a des moyens judiciaires qui permettent d'endiguer des propos qui sont mensongers ou inexacts. Ça, c'est très clair. Mais ensuite, je crois qu'on ne peut absolument pas empêcher le fait que ça nous échappe d'une certaine manière et que du coup, ça permet d'avoir un débat sur comment on fait aujourd'hui. Est-ce qu'on a suffisamment de services spécialisés? Est-ce qu'il faut revoir les qualifications pénales? Il y a des débats sur tous ces sujets qui sont nécessaires.
Oui, sur ce que dit Claire Doublier sur... Il y a évidemment un problème, je parle du fonctionnement de la justice, c'est très intéressant, sur le recueil de la parole, sur le recueil des plaintes auprès de la police et de la gendarmerie, mais dans l'enceinte judiciaire, la parole des femmes est entendue, est écoutée, et d'ailleurs par des magistrates, des juges qui sont en majorité, qui font la majorité du corps judiciaire.
C'est-à-dire qu'en réalité, avant même que ça n'arrive devant l'institution judiciaire, vous avez des décisions du parquet de classer 2 fois sur 3. Donc, et c'est là où il y a une difficulté, en réalité. Parole contre parole.
Faute d'éléments.
C'est faute d'éléments, en effet.
D'accord, le parquet ne devrait pas.
Pas nécessairement, parce que parfois à l'audience, c'est là où on peut pas être. Qui surgissent et qui sont tout à fait intéressantes.
C'est là où on ne peut pas être d'accord. Moi, en qualité de citoyenne, je peux parfaitement comprendre que la libéralisation de la parole qui intervient va générer des excès parce que ça s'explique historiquement. Je pense profondément que venir considérer qu'il est possible d'envisager un système qui soit dérogataire
c'est quelque chose qui est très dangereux socialement.
Et j'insiste sur le fait que les violences faites aux femmes aujourd'hui sur le terrain judiciaire, c'est une priorité absolue. Et la meilleure preuve, c'est que aujourd'hui, face au coronavirus, l'institution judiciaire va ralentir son activité, sauf dans certains domaines, dont, et c'était explicite, les violences faites aux femmes. Ce qui signifie bien que aujourd'hui, la parole d'une femme, dès qu'elle arrive dans une enceinte judiciaire, est une parole qui est parfaitement et totalement écoutée. Et c'est en ce sens qu'il me semble que le débat pourrait avoir lieu beaucoup plus sur le terrain judiciaire que sur le terrain des réseaux sociaux, parce que passer d'un contrôle par le patriarcat à un contrôle par le réseau social, en ce qui me concerne, en ce qui concerne les signataires de la tribune, nous n'en voulons pas.
Mais on n'est pas dans un monde de bisounours où le droit pénal peut régenter tout ce qui se passe dans la société, étant précisé par ailleurs que votre tribune n'a pas été publiée pour toutes les atteintes à la présomption d'innocence de gens lambda qui comparaissent, par exemple, en comparution immédiate. Donc c'est un mauvais combat en ce sens-là.
Merci, maître au pluriel. Merci Caroline Mécari et merci Claire Doublier. C'était un dialogue très intéressant. Merci à vous.
Merci à vous.
Merci.
Et merci de nous avoir suivis dans quelques minutes. Mediapolis, Catherine Ney, Olivier Duhamel. Bonjour Olivier.
Bonjour Patrick.
Votre invité ce matin.
Comme dit Caroline Mécari, on n'est pas dans un monde de bisounours. Et donc, on va traiter des sujets pas gays du tout, mais c'est la vie.
Et
avec
donc
Jean-Dominique Giuliani, président de la Fondation Robert Schuman, qui a un regard français, européen, mondial.
A tout de suite pour Mediapolis. Et excellente journée à l'écoute d'Europe 1. Je vous retrouve demain 9h10 pour C'est arrivé demain.